Bonjour à tous. La semaine dernière, déjà, je devais prêcher. J'étais pas là parce que j'étais malade. J'avais le Covid. Donc, j'avais peur de vous contaminer avec mes virus. C'est pour ça que j'étais pas là la semaine dernière. Heureusement, Jean-Pierre, gentiment, a accepté de me remplacer juste 2 jours avant. Donc, c'est vraiment formidable d'avoir des collègues qui sont prêts à servir le Seigneur. Et je pense qu'il paraît que le message était aussi très, très encourageant et édifiant. Voilà, ce matin, je suis toujours malade. C'est pour ça que je garde mon masque. Et ça fait presque 2 semaines maintenant. Mais voilà, je ne suis pas complètement rétabli. Et c'est pour ça que j'ai gardé. Parce qu'il y a ma gorge qui gratte un peu quand je parle. En tout cas, durant cette période de Covid, ça m'a permis un petit peu de réfléchir sur les personnes qui sont malades, les personnes qui sont dans l'épreuve, et aussi des gens qui traversent des moments assez difficiles. Souvent, c'est, il faut dire, au cœur des épreuves que la volonté de Dieu aussi devient plus claire pour nous. Je ne sais pas si... Est-ce que c'est une évidence pour vous ou pas? Moi, en tout cas, quand quelque chose qui m'arrive, à chaque fois, ça me permettait de réfléchir sur qu'est-ce que Dieu veut de moi. Et c'est comme ça que je comprenais un peu plus. Et puis, lorsque nous regardons un peu la Bible, il y a des personnages bibliques très, très... Enfin, des grands personnages qui aussi ont souffert dans leur vie. Même des serviteurs fidèles. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais vous inviter à regarder dans 1 Roi, chapitre 19. C'est l'histoire de Élie, le prophète Élie, que j'aimerais vous lire. 1 Roi, chapitre 19, verset 1. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Voilà, donc Acab était le roi d'Israël. Vous savez, à l'époque, il y avait... L'Israël était partagé... Oh, pardon. J'espère que ça ne va pas continuer comme ça. Le pays était divisé en deux. Et puis, Acab était donc le roi d'Israël, du royaume du Nord. Et sa femme, donc Jézabel, était donc une idolâtre. Et Acab aussi a été influencé, même tout le pays était devenu idolâtre. Jézabel donc envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, donc parce que Élie justement avait tué tous les prophètes idolâtres, Élie, donc, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, donc le royaume du sud, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait encore à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but. Puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et je cherche à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alors après, on peut encore continuer la lecture. Je vais m'arrêter là. Je explique un petit peu le contexte. Vous savez que Élie était un des rares prophètes du royaume du Nord. Et puis, dans le chapitre 18, il venait d'accomplir un miracle spectaculaire. Il avait proposé un défi aux prophètes de Baal et d'Astarté, donc les dieux que Jézabel avait apportés. Et il leur avait lancé un défi pour prouver que Dieu l'Éternel était le vrai Dieu. Et donc, chacun invoquait donc son Dieu pour qu'il fasse descendre le feu du ciel et consume l'offrande. Tout cela sous les yeux du peuple d'Israël. Donc il avait invité tout le peuple devant. Et puis donc il y avait un grand spectacle. Selon le récit biblique 1 Roi 18, donc les prophètes de Baal, et ils ont commencé en tout cas à acclamer Dieu d'envoyer le feu. Bien sûr, Baal, un dieu qui n'existe pas, n'a rien fait. Et donc ils ont continué jusqu'à midi sans aucune réponse. Alors Élie se moque alors d'eux et les encourage à crier encore plus fort. Et ils redoublent d'efforts jusqu'au soir en se scarifiant même. Mais aucun feu ne descend du ciel. Ensuite, dans le chapitre 18, lorsque Élie invoque Dieu, le feu descend immédiatement. Et ce feu consume le sacrifice, mais aussi tout autour de ces sacrifices où il y avait aussi pas mal de dos. Ainsi, Dieu a prouvé sa puissance et qu'il était vraiment le vrai Dieu d'Israël. Ce fut un triomphe éclatant. Et le peuple de Dieu, en voyant ce miracle, ont commencé aussi à attraper les faux prophètes et ils les ont exécutés. Devant cette vérité, après, bien sûr, Dieu a fait aussi grâce pour que, après 3 ans et demi de sécheresse, Élie prie et puis le Seigneur accorde la pluie au pays. Voilà, donc c'est un grand miracle qui se produit. C'était un ministère victorieux. Et puis la reine Jézabel, furieuse de la mort de ses prophètes, menace Élie de faire mourir. Et c'est cette simple menace qui déclenche chez Élie une profonde crise, une crise chez lui. Il est découragé, il fuit loin de ce pays-là, et il va même dans le Juda, et puis il est terrifié, il demande à Dieu même de le faire mourir, il veut la mort. Il déclare qu'il en a assez et qu'il n'est pas meilleur que ses ancêtres. On appelle ça, cette maladie, la dépression. La dépression. Donc, il vivait cette dépression. On peut se demander, mais Seigneur, mais pourquoi Élie, qui est un grand homme, qui a réalisé un miracle extraordinaire, il a fait descendre, enfin c'est pas lui, mais il a quand même prié pour que le feu descende du ciel. Les gens ont vu, c'était spectaculaire. Il a prié et puis le Seigneur envoie la pluie. Les gens ont vu ça. Après un ministère formidable, il a obéi scrupuleusement aux paroles de Dieu. Mais pourquoi dans ce cas-là, il doit vivre ce moment de désespoir? Pourquoi il doit vivre ce moment de dépression? C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il tombe aussi bas? Alors qu'il était fidèle, intègre aux yeux du Seigneur. On pourrait peut-être voir les facteurs de cette dépression qu'il a connue. C'est vrai qu'après la confrontation sur le mont Carmel, Élie avait sans doute épuisé toute son énergie au niveau physique, émotionnel et spirituel. Et c'est vrai que même dans mon expérience personnelle, quand j'ai vécu des moments extraordinaires de victoire, après souvent, c'était suivi de périodes de vulnérabilité. J'étais devenu un peu... Enfin, on ne peut pas vivre avec notre victoire du passé aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il faudrait justement renouveler chaque fois cette victoire, chaque jour. Non pas vivre avec de victoires du passé. Et en tout cas, et puis surtout, la première raison de cette facteur de dépression, je dirais qu'il était complètement épuisé suite à cet événement, suite à cette victoire. La fatigue physique, mentale était là et ça a ouvert la porte au doute et aussi à la peur. On a beaucoup parlé aussi de la peur ce matin. Et c'est cette fatigue physique, mentale, qui a aussi fait que voilà, ça a ouvert cette porte. Et puis, on voit bien dans cette lecture qu'on vient de faire que Élie se sentait seul. Il disait au Seigneur, je suis seul dans ce pays qui est fidèle à toi. Donc il croyait qu'il était le seul prophète fidèle, alors que bon, après Dieu lui révélera qu'il y a encore 7000 fidèles en Israël qui sont fidèles à lui. Mais il pensait, lui, dans sa tête, qu'il était tout seul, il était dans la solitude, et il était dans une solitude écrasante. Et c'est vrai que la solitude est souvent un facteur majeur aussi de la dépression. On a l'impression qu'on est tout seul. Or, non, il faut... L'homme est conçu pour vivre en communauté. L'homme est conçu pour vivre avec d'autres frères et sœurs en Christ. Non pas dans l'isolement. C'est pour ça que, voilà, il est important de venir vivre cette vie communautaire, pas seulement juste le dimanche matin, mais aussi dans la semaine avec d'autres frères et sœurs. Donc l'isolement, la solitude aussi, ça pourrait être un des facteurs qui fait qu'on peut tomber dans ce genre de dépression. Et puis Élie, malgré son courage, c'est un être humain, il avait peur de Jézabel. Quand Jézabel a dit que demain à cette heure-ci, tu seras mort. À ce moment-là, devant cette menace, je pense que cette menace a réveillé quelque chose en lui, une certaine vulnérabilité. Vous savez, dans Jacques, quand il parle de cet événement aussi, dans Jacques, dans l'épître de Jacques, il dit que Élie était un homme normal comme nous. Il a prié et le Seigneur a accordé la pluie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était comme nous. C'est pas parce qu'il a réalisé des choses formidables que c'est un super-homme. Non, c'est un homme comme nous, assez faible, assez vulnérable. Et oui, cette menace encore a réveillé une certaine vulnérabilité dans son cœur. Et cette peur intense a permis d'avoir un certain sentiment de découragement. Un découragement profond dans son cœur. Je pense que c'est... Il peut y avoir aussi d'autres facteurs, mais je pense que c'est trois facteurs majeurs qui ont fait qu'il se sentait vraiment pas bien. Et c'est pour ça qu'il voulait mourir. Il voulait que le Seigneur le touche, le prenne, qu'il prenne sa vie, qu'il reprenne sa vie. Et devant... Cette tristesse, devant ce découragement profond, le Seigneur répond. Répond comment? Tout simplement, il envoie tout d'abord... pardon. Il envoie tout d'abord un ange pour nourrir Élie. Oui, c'est vrai, il se sentait pas bien. Je pense que du coup, il n'a pas eu aussi l'occasion de manger. Et donc, là, il lui envoie un ange, lui offrant aussi du pain, de l'eau, pour le fortifier. Oui, nous avons cette attention aux besoins physiques qui montre que la dépression n'est pas seulement spirituelle. Le corps aussi a besoin du repos et du réconfort. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont dépressives et c'est vrai qu'ils dormaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils ont aussi besoin de récupérer au niveau physique. Et ensuite, Dieu ne le condamne pas en disant « Mais pourquoi tu te sens aussi mal ?» ne le condamne pas, il est à son écoute. Il sait que Élie est dans sa faiblesse, dans ses moments de faiblesse, et il le laisse se reposer. Il le nourrit. Il le laisse même exprimer sa douleur en disant, quand Élie dit, Seigneur, pourquoi? Et il l'écoute, il ne réprimande pas, il l'écoute. Et il le conduit même au monde Horeb. Voilà, il le fortifie davantage pour qu'il puisse aussi venir au monde Horeb pour qu'il y ait une face-à-face avec Dieu. Une rencontre personnelle où Élie peut l'écouter. Et là encore, devant le Seigneur, il déverse encore ses sentiments, ses frustrations. Dieu encore l'écoute. Voilà, Dieu, sachez que même si nous sommes en ce moment dans l'épreuve ou dans les difficultés, le Seigneur est un Dieu qui est patient à notre égard. Et il nous écoute, comme il l'a fait aussi avec Élie. La réponse de Dieu encore à la dépression d'Élie, c'est lorsque Élie donc rencontre Dieu dans cette caverne, Dieu lui parle avec un doux murmure doux et léger, rappelant que la présence divine n'est pas seulement dans les grandes démonstrations de puissance, dans le tremblement de terre, etc., mais dans la tranquillité. Ensuite, Dieu le réoriente Élie vers une mission, lui donnant aussi un but et aussi le réconforte et il lui révèle aussi qu'il n'est pas seul. Alors, quelle leçon avoir à travers cet événement? Sachons que ce n'est pas parce que nous suivons fidèlement le Seigneur que nous serons préservés de toutes les épreuves. Ce matin, j'ai dû venir avec Hugo, ici présent. Vous connaissez un peu Hugo, hein, il a mal tout le temps. Or, quand je l'ai connu pour la première fois, il recherchait le Seigneur. Et plus il approfondit, plus il a la foi, il vit une certaine persécution de la part de son papa. Mais voilà, sa foi grandit, mais le problème c'est que la santé devient de plus en plus faible. Il sent la douleur partout. Et on ne comprend pas. Les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer quelle maladie c'est. On ne comprend pas. On prie tout simplement. On peut se dire, mais Seigneur, maintenant qu'il a la foi, qu'il grandit dans la foi, pourquoi il doit vivre ce genre d'épreuve? Je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi je suis dans la foi et puis j'ai un cancer? Seigneur, pourquoi je dois vivre ce genre de situation alors que je suis fidèle à toi? Je n'ai pas la réponse à toutes ces choses, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est présent à nos côtés dans ces moments. Dieu nous rappelle qu'il est présent dans nos faiblesses. Romains 8, Paul dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Rien. Même les persécutions, même les maladies, même les épreuves, même les choses qui nous dépassent complètement, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Et d'ailleurs, il dit encore, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Soyons dans l'assurance. Même si nous vivons des moments difficiles, sachons que Dieu est toujours avec nous. Et ces versets apportent vraiment un puissant réconfort en temps de difficulté. Et oui, malgré les épreuves, les persécutions, les angoisses, malgré les menaces que Élie a pu recevoir, voilà, il s'est tourné vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Je pense que le plus important, c'est de se tourner vers le Seigneur. Et on devrait justement demander de l'aide au Seigneur. Rappelons cette histoire de Pierre où, quand Jésus marche sur l'eau, Pierre, voyant Jésus, Seigneur, est-ce que je peux venir vers toi? Il dit, viens. Et il avait la foi pour aller, pour marcher aussi sur l'eau. Il a fait quelques pas. Et puis, pourquoi il s'est enfoncé? Tout simplement parce qu'il a vu les tempêtes arriver vers lui. Il a vu les circonstances difficiles. Et parfois, oui, nous avons la foi, nous pouvons même faire des pas de foi, marchant sur l'eau, mais à cause des tribulations, ou à cause des épreuves, à cause de difficultés de santé, ces tempêtes peuvent vraiment nous terrifier. À ce moment-là, n'oublions pas que le Seigneur nous tend sa main, nous tend sa main. Sa présence assis comme une main tendue dans la tempête. Et donc cette conviction est vraiment essentielle pour les croyants. Oui, peut-être que certaines d'entre nous sentons cette solitude comme Élie. Mais sachez que voilà, Dieu est là, il nous porte réellement. Et puis ce qui est encore super avec Élie, dans l'histoire d'Élie, c'est que Dieu lui donne une nouvelle mission. Qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas lu encore ce matin, mais quand vous lisez, vous continuez la lecture, il lui donne encore une autre mission en disant « Va oindre Hazaël comme roi de Syrie. Va oindre Jéhu comme roi d'Israël. Va oindre Élisée comme ton successeur. » Donc, il lui donne du travail. Voilà, ce n'est pas juste la fin d'avoir des choses, d'avoir fait descendre le feu du ciel. C'est pas ça, c'est pas ça la fin de ton ministère. Tu as encore d'autres choses à faire. Il lui donne encore un sens à sa vie. Et la mission confère aussi du sens à notre vie, surtout dans les moments où nous nous sentons perdus. Oui, lorsque la dépression nous envahit, il est fréquent que nous perdions notre raison d'être et que notre perception de l'avenir soit obscurcie. Mais comme Élie, qui reçoit un nouvel appel à agir, nous sommes aussi appelés à être restaurés par Dieu, par les tâches que le Seigneur nous confie. Et que la mission, en tout cas, ce genre de mission nous aide à voir au-delà de notre douleur personnelle et aussi à concentrer notre énergie sur un but qui dépasse notre propre personne. Dieu, il lui dit encore, il lui rassure, « Non, tu n'es pas seul, je suis là. » Mais aussi, il y a encore 7000 en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Voilà, il lui rappelle que « Je suis là, mais aussi il y a d'autres frères et sœurs en Christ qui sont là pour t'entourer, tu n'es pas tout seul. » Il lui révèle qu'il n'est pas isolé. De la même manière, la communauté joue un rôle essentiel dans notre propre lutte contre la solitude et la dépression. C'est vraiment très important. Je vais terminer. Le récit d'Élie illustre combien la dépression ou les sentiments de découragement peuvent frapper même les plus forts, les plus fidèles, souvent même après des succès importants. Et cela révèle également, en tout cas ici, dans cette histoire d'Élie, nous voyons que Dieu ne nous juge pas. Ne nous juge pas. Même si nous sommes dans la faiblesse, même si nous sommes dans le profond, pas égo, mais... Comment ? Pas dépression. Ah, c'est pas grave. mais malgré notre faiblesse, Dieu se montre patient. Il est prêt à restaurer notre vie. Et il veut tout simplement nous encourager à ne pas ignorer aussi toutes les choses nécessaires. D'abord, si vous vous sentez bien, vous vous sentez mal, il faut d'abord aussi avoir à se récupérer, avoir une bonne santé nécessaire. Hein. Il ne faut pas ignorer les besoins physiques. Et puis, il faut nous appuyer sur la présence de Dieu dans les moments de doute. Et aussi à rechercher un but, parce que Dieu nous a toujours une mission à nous donner. Et puis, nous a aussi donné d'autres frères et sœurs avec qui nous pouvons partager nos sujets de prière, avec qui nous pouvons prier ensemble. Donc, ne gardez pas... nous avons une certaine mauvaise habitude de garder nos soucis à nous-mêmes, en se disant que c'est pas très sain, et puis si je partage, après, ça va colporter, et puis ça va devenir très compliqué. Non, le Seigneur aimerait vraiment qu'on partage nos soucis. Et d'ailleurs, il nous recommande de porter ensemble le fardeau. C'est ainsi que nous réaliserons la loi du Christ. C'est important de partager, d'intercéder les uns pour les autres. C'est ainsi que nous serons vraiment des vrais disciples. Amen. Est-ce que tu me permets de chanter un chant? Oui.